السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور ہر ایک کے لیے ایک مطمئن نظر ہے.
La traduction de ce verset est comme suit. Et chacun a un but auquel il consacre toute son attention. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous rassemblera. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Dans ce verset, Dieu a émis un ordre qui est important pour tout type de progrès, pour tout membre de la Jamaat. Cela est important pour tout progrès qui sera un moyen pour acquérir le plaisir de Dieu. Des progrès qui vont faire de tous ceux qui se disent musulmans de véritables musulmans. Cela est important pour la Jamaat collectivement, pour son progrès. L'ordre qu'il a été donné ici est que le véritable croyant, le véritable musulman, la Jamaat des véritables croyants doivent avoir comme but le fait qu'ils progressent dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Allah déclare qu'il y a des millions de personnes sur cette terre. Et chaque personne a un objectif dans sa vie. Et chaque personne fait des efforts pour atteindre cet objectif. Celui-là est en train de suivre cet objectif et l'autre est en train de faire des efforts pour atteindre un autre objectif. Même ceux qui sont coupables de méfaits ont des objectifs qu'ils essayent d'atteindre. Même si cela peut nuire aux autres. Le voleur, par exemple, passe toute sa journée à planifier le larcin qu'il va commettre la nuit. « Le brigand planifie lui aussi ses prochains méfaits. Il y a certains qui, au nom de la religion, au nom de la vertu, commettent des atrocités et ont cela comme objectif. Et ils font des plans en ce sens. Et ils entraînent des enfants innocents pour commettre ces méfaits. Et pour cela, ils dépensent leur argent et leur temps. Et après un long entraînement, ils débarrassent ces enfants de toute aptitude à réfléchir pour les pousser à lancer des attaques suicides. Ils les poussent à commettre ces actes terroristes pour tuer des innocents. Mais malheureusement, aujourd'hui, toutes ces atrocités sont commises par ceux qui se disent musulmans. Ils sont en train de commettre ces atrocités, de commettre ces troubles au nom de la religion. Et ils sont en train de jouer avec la vie des innocents. Ainsi, ils sont en train de diffamer le nom de l'islam, ils sont en train de déshonorer les musulmans. Les musulmans qui ont un objectif qui a été fixé par Dieu. Leur objectif fixé par Dieu est qu'ils doivent se surpasser les uns les autres dans le domaine de la vertu. Et ils doivent avoir comme objectif l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Il n'est pas question ici uniquement d'une seule bonne œuvre, mais ils doivent progresser dans tout domaine, dans tout acte méritoire. Voilà l'objectif qui leur a été fixé par Dieu. Votre objectif, c'est d'accomplir toute bonne œuvre. C'est là que vous serez considéré comme un véritable musulman. Allah déclare, et chacun a un but auquel il consacre toute son attention. Chacun a un but, un objectif. Wichatun signifie une direction, une voie. Wichatun signifie aussi une méthode, une route. Cela signifie aussi atteindre un objectif. Pour un musulman, il y a cette condition, à savoir qu'il doit se tourner dans cette direction de laquelle Dieu lui a donné l'ordre de se tourner. Il ne suffit pas de se tourner dans cette direction, mais il doit aussi suivre cette voie. Il y aura différentes voies qui vont s'offrir à lui et il doit suivre la voie qui a été fixée par Dieu. Il ne suffit pas de marcher dans cette voie, mais il doit comprendre qu'il a un objectif à atteindre. Et ce but a été fixé par Dieu. C'est-à-dire fastabekul khairat. Non seulement qu'il doit accomplir de bonnes œuvres, mais il doit aussi rehausser le niveau de ses bonnes œuvres. Et il doit aussi essayer de progresser dans ce domaine. Non seulement qu'on doit essayer de se surpasser les uns les autres, mais il faut aussi prendre avec soi ceux qui sont faibles. Le progrès de la Jamaat est aussi, en soi, un des objectifs d'un croyant. C'est pour cette raison que le véritable croyant est celui qui progresse et qui fait aussi des efforts en faveur des autres, en faveur des autres membres de la Jamaat. Il faut aussi les faire participer dans cette course pour accomplir de bonnes œuvres. Il faut aussi leur offrir l'occasion de progresser. Il faut qu'ils progressent eux aussi afin que la roue du progrès de la Jamaat puisse tourner rapidement. La Jamaat Ahmadiyya est celle qui s'est jointe à l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et par ce faire, la Jamaat Ahmadiyya a été établie pour répandre le bien apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a parmi ces biens le fait de s'acquitter de ses devoirs envers Allah et envers les créatures de Dieu. Il y a aussi l'ibarda, il y a aussi le fait de servir l'humanité tout entière. Car le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est venu répandre le bien. Comme je l'ai déclaré, j'ai cité cet exemple auparavant, à savoir qu'il y a ceux qui sont en train d'encourager les enfants à commettre des crimes ou à se tuer ou à lancer des attaques suicides. Ce n'est pas en les poussant à lancer ces attaques suicides, en lançant des bombes, que l'on pourra répandre le bien. Aujourd'hui dans le monde, en tant que Jamaat, c'est uniquement la Jamaat Ahmadiyya qui est là pour faire profiter au monde cette miséricorde du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et pour répandre le bien. La Jamaat Ahmadiyya est en train de faire des efforts en ce sens. Et cette Jamaat fait de son mieux pour s'acquitter de son devoir. Ainsi, la Jamaat Ahmadiyya essaye de répandre le message de l'islam, d'en informer le monde. La Jamaat Ahmadiyya publie les traductions du Saint-Coran dans différentes langues du monde. Et après avoir publié ces traductions du Saint-Coran, la Jamaat Ahmadiyya diffuse cela dans le monde. Et la Jamaat Ahmadiyya est là pour enseigner la moralité au monde, pour enseigner l'amour et la fraternité, afin de servir l'humanité. Elle est en train d'ouvrir des hôpitaux pour offrir des soins à ceux qui souffrent. Et pour l'éducation des enfants qui en sont privés, elle a ouvert des écoles dans des endroits reculés. Après leur avoir accordé cette éducation, la Jamaat Ahmadiyya est là pour leur faire comprendre ce que c'est que les bonnes œuvres. Et la plus grande tâche qu'elle est en train d'accomplir, c'est de réunir l'humanité sous la bannière du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, afin qu'il puisse se prosterner devant Dieu l'unique. Ainsi, la mission de la Jamaat Ahmadiyya n'est pas une mission ordinaire. Nous avons pris un engagement avec l'imam de l'époque, et cet engagement n'est pas un engagement ordinaire. Afin de remplir les conditions de cet engagement, nous allons devoir avoir comme objectif l'objectif qui a été fixé par Dieu pour nous. Et j'ai déjà donné quelques explications à ce sujet, à savoir que pour avoir le plaisir de Dieu, nous allons devoir marcher sur ces voies qui ont été tracées par Dieu et qui mènent à Dieu. Et Satan avait déclaré qu'il va se mettre sur cette voie. Et Satan va essayer de vous empêcher d'accomplir de bonnes œuvres. Et Satan va essayer de vous empêcher de progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Mais on doit prier « Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina anamta alayhim ». Et cette prière va arrêter les assauts de Satan. Et c'est ainsi que le croyant va atteindre les sommités de la vertu. Et c'est là qu'il aura l'honneur d'être considéré comme un membre de la Khair Ummah. Ainsi donc, pour atteindre ces objectifs, chaque grand et petit parmi nous, chaque homme et femme parmi nous, chaque jeune et vieux, va devoir faire des efforts. On doit essayer d'accomplir toutes ces bonnes œuvres afin d'avoir comme objectif ce but fixé par Dieu pour nous. Et pour cela, nous allons devoir faire des efforts. Dans le Saint-Coran, Allah a demandé aux croyants d'accomplir des bonnes œuvres, et parmi ces bonnes œuvres, il y a le fait de dépenser pour la cause de Dieu, c'est-à-dire de faire des sacrifices financiers pour la cause de Dieu. Ces sacrifices financiers sont importants pour atteindre ces objectifs que j'ai évoqués auparavant, c'est-à-dire pour diffuser le message de l'islam et pour servir l'humanité. L'histoire de la Jamaat Ahmadiyya au cours de ces 100 dernières années est témoin de ce fait que les membres de la communauté ont fait des sacrifices pour atteindre ces objectifs. Ces sacrifices et ces bonnes œuvres sont la distinction de la Jamaat Ahmadiyya. Et en voyant cela, les autres, ceux qui ne sont pas les membres de la communauté, sont tout à fait ébahis et sont soucieux face à cela. Car ces gens n'arrivent pas à comprendre ce fait. À savoir, ils ne comprennent pas les sentiments qui animent ces actions. Certainement, un Ahmadi est animé de ces sentiments tout simplement parce qu'il est en train de suivre le commandement de Dieu. Et son objectif, c'est « Fastabikul Khairat ». Ainsi, aujourd'hui, sur la surface de la terre, ce sont uniquement les Ahmadis, c'est vous, à qui s'applique ce verset « Kuntum Khaira Ummatin Ukhrijat Linnas ». Et c'est ainsi que vous êtes en train de vous surpasser les uns les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est vous qui êtes en train de faire des efforts en ce sens. Vous êtes en train de sacrifier votre vie, vos biens, votre temps et votre honneur pour progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres et pour faire progresser la Jamaat et pour transmettre le message de l'islam dans les quatre coins de la terre. Aucun ennemi, aucune force au monde ne pourra arrêter le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. Aucun État, aucun groupe ne pourra ralentir la vitesse de notre progrès tant que nous allons comprendre le sens de ce verset « Fastabikul Khairat ». Nous avons accepté l'amour parfait du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et nous avons pris un engagement avec lui pour faire partie de cette renaissance de l'islam. Inch'Allah, cet engagement ne va jamais amoindrir ces sentiments qui nous poussent à progresser dans le domaine de la vertu. En voyant ces sentiments concernant les sacrifices et les bonnes œuvres, je suis moi-même tout étonné. Je m'étonne de ces gens qui sont animés de ces sentiments de sacrifice. Des personnes qui consentent à faire ces grands sacrifices et qui le font de manière permanente. Dieu a accordé des personnes sincères à la Jamaat du Messie premier à l'Islam. Des personnes qui, de manière constante, ne cessent de faire ces sacrifices. Des personnes qui ont compris le sens de Fastabikul Khairat. Fastabiku signifie progresser et ne cesser de progresser. Istibak signifie aller de l'avant. Et le fait de faire des efforts. Nous voyons ces sentiments dans la vie des membres de la communauté qui essayent d'accomplir des bonnes œuvres. Et parmi ces bonnes œuvres, comme je l'ai dit, il y a le fait de faire des sacrifices financiers. Chaque année, par la grâce de Dieu, la Jamaat fait des sacrifices pour atteindre cet objectif. Parmi ces personnes, il y a des nouveaux venus, il y a aussi des anciens Ahmadis, il y a ceux qui sont pauvres, il y a ceux qui sont de classe moyenne, et il y a aussi ceux qui sont comparativement un peu plus riches. toute personne qui a compris le sens de ces sacrifices financiers, ces personnes font des efforts pour progresser dans ce domaine. S'il y a des manquements quelque part, c'est de la part de ceux qui doivent faire des rappels à ce sujet. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas de manquement concernant la sincérité et le sens de sacrifice des membres de la Jamaat. Comme je l'ai dit, la majorité des membres de la Jamaat ont peu de moyens. C'est pour cette raison que la majorité de ceux qui font des sacrifices sont ceux qui ont peu de moyens, des personnes qui sacrifient leurs désirs pour faire ces sacrifices financiers. Il y a aussi certaines personnes qui ont de grands moyens, des personnes qui sont aisées et qui font aussi de grands sacrifices. Mais leur niveau de sacrifice et la quantité qu'ils sacrifient est relativement peu moindre par rapport au sacrifice de ceux qui sont de revenus modestes. Dieu a accordé d'innombrables grâces à ces Ahmadis qui habitent en Occident. La majorité de ceux qui habitent en Occident ont été bénis par Dieu et leur situation est meilleure que leur situation antérieure. Dieu leur a accordé beaucoup. Ces personnes ne doivent pas uniquement regarder leur propre sacrifice ou ces personnes ne doivent pas se contenter des sommes qu'ils sacrifient. Ils doivent faire en sorte qu'après, après année, ils ne cessent de sacrifier davantage. S'ils n'ont pas augmenté leur sacrifice, s'ils ont stagné quelque part, ils doivent se faire des soucis. Comme je l'ai déclaré, les Ahmadis comprennent cet esprit de compétition et ils font des efforts en ce sens. Dans la Jamaat, il y a ces contributions permanentes, il y a aussi d'autres fonds et les membres de la Jamaat font des sacrifices pour ces fonds. Il y a certains fonds qui sont là pour combler les besoins locaux d'une Jamaat. Il y a aussi d'autres fonds qui concernent le projet de la Jamaat au niveau national. Dans nombre de mosquées, on est en train de bâtir des grandes mosquées et il y a aussi d'autres projets. On ne pourra pas combler ces besoins, on ne pourra pas faire ces dépenses en puisant dans les fonds permanents. En tout cas, en sus de ces contributions permanentes, les membres de la Jamaat sont en train de faire de grands sacrifices. La majorité d'entre eux sont en train de faire ces sacrifices. Je dois aussi présenter un éclaircissement ici. Il y a les fonds Tahrik-e-Jadid et Waqf-e-Jadid. Ces deux plans ou ces deux fonds concernent le centre. On ne dépense pas de ces fonds au niveau national ou au niveau local. Si dans certains pays, on leur demande de maintenir cette somme là-bas, eh bien, ils ne peuvent pas en dépenser sans demander la permission du centre. Dans certains pays riches, certaines personnes se disent que, puisque ces fonds concernent le centre, et puisqu'on ne va pas dépenser de ces fonds sur notre pays ou sur notre Jamaat, eh bien, pourquoi est-ce que nous devons participer dans ces fonds? Ils disent que nous avons nos propres projets, nous avons des projets au niveau local, au niveau national. Ils disent que tout d'abord nous devons combler nos besoins à nous. Tout d'abord, je leur dis que puisque on est en train de donner pour la cause de Dieu, pour avoir son plaisir, eh bien on ne doit pas se poser de telles questions. Ensuite, le centre aussi a de nombreuses dépenses, il y a de nombreux projets. Il y a ces pays pauvres que l'on doit soutenir, parmi lesquels il y a des pays d'Afrique et il y a des pays d'Asie, l'Inde, le Bangladesh, et il y a aussi certains pays d'Europe qui sont soutenus par le centre, là où il y a peu de membres de la Jamaat. C'est le centre qui comble leurs besoins financiers. Et le centre soutient aussi ces étudiants qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études. Et on arrive à combler leurs besoins en puisant dans ces sommes qui sont envoyées au centre par les différentes jamaats. Et le sens de Fastabiul Khairat signifie que vous devez soutenir ceux qui sont faibles, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, afin que vous puissiez être honorés par Dieu, afin que vous puissiez aussi dire que nous avons soutenu ceux qui sont faibles. Dans ce même verset que j'ai cité au tout début, Allah déclare « Aynama takunu ya'tibikumullahu jami'a » Là où vous serez, Allah va vous réunir. C'est-à-dire, puisque nous serons tous réunis ensemble. Quant à ceux qui vont maintenir cet esprit de compétition, ces personnes ne seront bénies. Mais quant à ceux qui sont paresseux, quant à ceux qui ne veulent pas soutenir les autres, quant à ceux qui ne cessent de poser des questions en se disant « Pourquoi allons-nous dépenser pour les autres ?» Ces personnes auront des comptes à rendre. Même si on se pose de telles questions ici et là, cela va à l'encontre de cet esprit, de l'esprit de ces enseignements qui ont été donnés aux Ahmadis. Cela va à l'encontre de ce que désire Dieu de notre part. J'ai évoqué ici les dépenses du centre et je vais vous présenter quelques détails à ce sujet afin que vous puissiez comprendre que toutes les jamaats du monde entier ne sont pas autosuffisants financièrement. Elles n'arrivent pas à combler leurs besoins, mais c'est le centre qui les subventionne. Et le centre dépense de ces sommes qui viennent des différentes jamaats. Par exemple, il y a des pays d'Afrique et d'autres pays qui ne sont pas autonomes. Il y a 68 de ces pays, parmi lesquels il y a 27 pays. D'Afrique, 18 pays. D'Europe, 15 pays. D'Asie, 6 pays. D'Amérique du Sud et 2 pays d'Amérique du Nord. Et cette année-ci, on a dépensé une grosse somme uniquement sur la construction des mosquées et des mission house. Et le centre a dépensé 3 millions de livres sterling sur les cliniques, sur les écoles, pour les émissions à la radio et à la télé. En sus de cela, il y a de grands projets, des projets de construction. Il y a aussi des dépenses sur nos missions. Par exemple, le centre est en train de subventionner certains pays d'Afrique. Par exemple, dans 35 pays, il y a 178 missionnaires et plusieurs centaines de mouallemines. Et c'est le centre qui dépense financièrement sur ces mouallemines et sur ces missionnaires. Et il y a 41 pays qui reçoivent des subventions. Et dans ces pays, il y a 243 missionnaires et 918 mouallemines. Ensuite, il y a des missionnaires que l'on est en train de construire en Irlande. C'est vrai que la Jamaat de l'Irlande a contribué une grosse somme, mais le centre a contribué environ la moitié pour la construction de cette mosquée. Il y a aussi la construction de la mosquée de Valence en Espagne. Le centre a contribué 80% de la construction. On est en train d'agrandir la mosquée de Kampala en Ouganda et c'est le centre qui a payé tous les frais. On est en train de construire la mosquée centrale en Côte d'Ivoire aussi. Dans 19 pays d'Afrique, on est en train de construire 99 mosquées et on a construit 46 mission houses. Et sur ces 99 mosquées, le centre a contribué pour la construction de 65 mosquées. Il y a aussi d'autres dépenses concernant les mission houses. Dans d'autres pays, on a construit 26 mosquées. On a établi 70 mission houses. On a construit 2 au Bangladesh, 40 en Inde, 1 aux Philippines, trois au Népal et ensuite aux îles Marshall aussi. C'est le centre qui a payé les frais de ces constructions. Le centre soutient aussi financièrement les étudiants qui sont talentueux. Et le centre a subventionné les études de 4500 étudiants. Et le centre a dépensé plusieurs centaines de milliers de livres sterling pour cela, en offrant des bourses ou en offrant des prêts. Et il y a 350 étudiants qui sont en train de faire des études universitaires, qui sont en train de faire leur maîtrise ou leur doctorat. Et c'est la Jamaat qui est en train de les soutenir financièrement. Ensuite, le centre est en train de subventionner des projets pour offrir de l'eau, de l'électricité dans certains pays d'Afrique. Ainsi, on est en train de faire tout cela pour le progrès de la Jamaat, pour éclairer le monde concernant les enseignements de l'islam, pour servir l'humanité. Et ceux qui ne peuvent pas participer directement dans ces projets sont en train de soutenir cela par leur contribution. C'est ainsi qu'on arrive à participer dans ces projets et c'est ainsi que l'on arrive à être récompensé. En tout cas, j'ai payé des pays d'Afrique, mais ne croyez pas que dans ces pays d'Afrique, ils ne sont pas en train de subventionner leurs propres projets et qu'ils sont subventionnés uniquement par le centre. C'est pour cette raison que je veux vous présenter quelques récits à ce sujet. Au Ghana, dans la région d'Upper West, il y a une dame qui s'appelle Fatima Daoud Saheba, qui a acheté un terrain de ses propres frais et qui a fait bâtir une mosquée sur ses propres frais. Et cette mosquée peut accueillir 300 personnes. Tout près de la ville d'Accra, dans un village ou dans cette région, il y a eu plusieurs baïras et les membres de la Jamaat ont bâti une mosquée de leurs propres frais. Il y avait plusieurs Jamaat là-bas et ils ont bâti 6 mosquées. Et 2 autres mosquées sont en train d'être bâties. Il y a une dame qui a payé les frais pour la construction d'une mosquée, une mosquée qui peut accueillir 50 personnes. Et elle avait fait bâtir une mosquée dans la ville d'Accra auparavant. Le missionnaire Ahmad Jibrail Saheb a déclaré qu'on a bâti une grande mosquée à Ekossi. Et un de nos juges de la Cour suprême, M. Kakoujan Saheb, qui a contribué 50% pour la construction de cette mosquée. Le Hafiz Jibrail Saheb est tombé malade. Priez pour lui, pour qu'Allah lui accorde une bonne santé. L'amir de la France a déclaré qu'il était parti faire une tournée au Maroc et il a témoigné du sens du sacrifice des Ahmadis de là-bas et de leur sincérité et de leur amour pour le calife. Lorsqu'on leur a parlé à propos des sacrifices financiers et lorsqu'on leur a présenté les écrits du Messie premier al-Islam à ce sujet, après quelques jours, quelqu'un est venu voir le président de la Jamaat et lui a confié une grosse somme et lui a dit « Voilà ma contribution depuis que je suis Ahmadi. » Car auparavant, je n'avais pas entendu parler de ses contributions financières à la lumière des dires du Messie promis et du calife. Puisque j'ai écouté cela, c'est pour cette raison que je vous offre cette somme. Asrar Aribati du Niger écrit que l'année dernière, en octobre, ils étaient partis faire des tournées. Il a déclaré que je suis parti dans un village et après la prière de Maghrib, on leur a présenté le message de l'Ahmadiyya. Et l'amir a présenté des vidéos concernant la construction des vidéos des tournées de l'amir Saheb et de la construction des mosquées, concernant les efforts de la Jamaat et concernant l'avènement de l'imam Al-Mahdi, concernant le système de Baitul Mal. Après avoir visionné cette vidéo, l'imam de la mosquée s'est levé et il s'est adressé aux membres de l'assistance de la langue Hausa et il est parti à l'extérieur de la mosquée. L'amir a déclaré que nous étions soucieux, mais après quelque temps, il est retourné et il a dit que nous avons su maintenant que l'imam Al-Mahdi est venu et qu'il y a le système de Baitul Mal. L'imam a déclaré que nous sommes sortis à l'extérieur afin que nous puissions participer dans ces plans et afin que nous puissions contribuer nous aussi. Ainsi, immédiatement, ils ont fait une collecte, ils ont offert cela à notre missionnaire et ils ont rempli le formulaire de la Baïra. L'Amir de l'Ouganda rapporte que le 18 septembre dernier, il y a eu une réunion des membres de l'Amila nationale et de certains membres de la communauté. Et on a fait un plan pour un projet. On a dit que l'on va devoir préparer ce terrain pour la Jalsaga. C'est un terrain qui se trouve à 9 milles de Kampala. Après cette réunion, il y a nombre de personnes qui ont promis de contribuer financièrement. C'est vrai que le shilling kényan n'a pas de grande valeur, mais ils ont décidé de contribuer 83 millions de shillings kényans. Ainsi, les Ahmadis des pays riches ne doivent pas croire que les Ahmadis des pays pauvres dépendent entièrement d'eux. Au contraire, ces gens sont en train de faire des sacrifices, et des sacrifices qui dépassent leurs moyens. En tout cas, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, je suis en train d'évoquer les sacrifices financiers parce que je vais annoncer la nouvelle année du plan Tahrik Jadid. Et selon la tradition, je vais présenter quelques détails concernant les contributions de l'année précédente. Ainsi, après l'importance de ces plans à propos le niveau que doit atteindre l'Ahmadi, je vais vous présenter les détails concernant les contributions de l'année dernière. Ainsi, la 78e année du plan Tahrik Jadid est terminée le 31 octobre dernier et à partir du 1er novembre a débuté la 79e année du plan Tahrik Jadid. Et selon les rapports que l'on a reçus cette année-ci, on a contribué 7 215 700 livres sterling dans le plan Tahrik Jadid, alhamdulillah. Et il y a eu une augmentation de 5 084 700 livres sterling. Le Pakistan a maintenu sa position en dépit de la situation difficile et de la pauvreté là-bas. Parmi les grandes jamaates, il y a les États-Unis en première position, ensuite il y a l'Allemagne en deuxième position, ensuite il y a le Royaume-Uni, le Canada en quatrième position, l'Inde en cinquième position, l'Indonésie sixième, l'Australie septième position et la Belgique en neuvième position. La Belgique et le Ghana sont en même position. La liste des pays est ainsi. Premièrement, il y a les États-Unis, deuxième position l'Allemagne, Royaume-Uni, quatrième position Canada, ensuite l'Inde, l'Indonésie en sixième position, ensuite il y a une jamaat du Moyen-Orient, en septième position, ensuite il y a l'Australie, ensuite il y a la Suisse et la Belgique. La Belgique et le Ghana sont proches. Concernant les grandes jamaats par rapport à leur monnaie locale et par rapport à leur contribution à leur monnaie locale, il y a tout d'abord ce pays du Moyen-Orient que je n'ai pas évoqué. Ensuite, il y a l'Australie, l'Inde, l'Allemagne, les États-Unis. Ensuite, il y a la Belgique, le Canada, le Royaume-Uni, l'Indonésie. Ensuite, il y a la France. Concernant les contributions par personne, il y a tout d'abord ce pays du Moyen-Orient, où les membres ont contribué environ 156 livres sterling par personne. Ensuite, il y a les États-Unis avec 118 livres sterling par personne. Ensuite, il y a la Suisse, le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada, la Norvège, l'Allemagne et l'Australie. Non seulement qu'il y a eu une augmentation concernant la contribution, mais il y a aussi eu une augmentation par la grâce de Dieu concernant les membres qui ont participé dans le plan Tahrik-e-Jadid. Et cette année-ci, il y a eu une augmentation de 180 000 nouveaux contributeurs. Et ainsi, cette année-ci, on a 911 000 contributeurs. Pour les pays d'Afrique, en tête de liste, il y a le Ghana, ensuite le Nigeria, l'île Maurice, le Burkina Faso, Kenya, le Bénin, l'Ouganda, la Tanzanie, la Gambie et la Sierra Leone. C'était une liste séparée de ces pays. En tout cas, leur sacrifice est conséquent par la grâce de Dieu. Par rapport à l'augmentation de nouveaux contributeurs, le Nigeria a dépassé tous les pays du monde entier. Cette année-ci, au Nigeria, il y a eu 64 419 nouveaux contributeurs. Et ainsi, le Nigeria est en deuxième position après le Pakistan par rapport au nombre de contributeurs. Par rapport à l'augmentation de nouveaux contributeurs, le Nigeria est en première position, ensuite il y a le Bénin, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Le Ghana doit aussi faire des efforts en ce sens. Dans le Daftar Awal, il y avait 5 927 contributeurs et par la grâce de Dieu, 285 sont toujours vivants. Ils sont en train de contribuer et les descendants de ceux qui sont décédés sont en train de payer en leur nom. Les trois grandes jamaats au Pakistan sont Lahore, Rabwa et Karachi. Et les 10 grandes villes sont Rawalpindi, Islamabad, Sialkot, Quetta, Sargodha, Faisalabad, Mirpur Khas, Nawab Shah, Peshawar et Bahawalpur. Par rapport aux provinces, il y a tout d'abord Umarkot, Sheikhupura, Gujrawala, Badin, Sangar, Narwal, Bahawalnagar, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Mirpur Azad Kashmir et Khaniwal. Les 5 premières jamaats des États-Unis sont Los Angeles, Inland Empire, Columbus, Silicon Valley, Détroit et Harrisburg. Les premières jamaats en Allemagne sont Cologne, Neuss, Mehdiabad, et les 10 premières Amara sont Hamburg, Francfort, Grossgrau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Offenbach et Rijksstad. Pour le Royaume-Uni, les jamaats ou les 10 premières jamaats sont celles de la mosquée Fazal, New Malden, West Hill, Worcester Park, Baitul Futuh, Rains Park, Mosque West, Cheam, Manchester South et Birmingham Center. Et par rapport au centre, il y a Londres et ensuite il y a Midlands et North East. Pour les petites jamaats, les premières jamaats sont Scunthorpe, ensuite Bromley, Lewisham, Bournemouth, Leamington Spa. Les grandes jamaats du Canada sont Calgary, Edmonton, Peace Village East, Surrey East, Peace Village Center, Woodbridge, Brampton, Flowertown, Mississauga West, Maple et Montréal Est. Les 10 provinces de l'Inde sont Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Bengal, Karnataka, Orissa, Punjab, Delhi et UP. Et les 10 premières jamaat de l'Inde sont Coimbatore, Tamil Nadu, Kerala. Ensuite, il y a Calicut, Hyderabad, Andhra Pradesh, Kadian en 5e position. Ensuite, il y a Kannur Town, Kerala, Calcutta. Ensuite, il y a Chennai et Tamil Nadu. Il y a quelques récits qui concernent le Tahrik Jadid que je vais vous présenter. Monsieur Ahmad Jibril Saïd rapporte, je lui ai demandé d'augmenter le nombre de contributeurs. En tout cas, ils ont participé dans ces plans, mais on doit faire des efforts pour augmenter le nombre de contributeurs. La mère de la Gambie a écrit qu'il y a une dame qui est venue voir le missionnaire au centre. Et cette dame a demandé au missionnaire en disant que qui est celui qui contribue le plus dans le fonds Tahrik Jadid à Farafini. Le missionnaire a cité le nom de cette personne, un certain Sambu Jang, qui contribue le plus. La dame a demandé combien il contribue. On lui a dit que cette personne contribue 25 000 dilassis. La dame contribuait 15 000 dilassis. Quant à elle, elle a dit que c'est vrai que je n'ai pas de grands moyens, mais je vais essayer de dépasser cette personne. Et par la grâce de Dieu, je vais essayer de le dépasser. L'amir de l'Espagne déclare qu'il y a un certain Wafaur Rahman Sahiba qui a écouté le sermon concernant le Tahrik Jadid et elle a promis 500 euros et a contribué cela. Lorsqu'elle a payé cela, on lui a parlé à propos des autres chanda. On a dit qu'il n'y a pas de restriction sur vous, vous pouvez contribuer autant que vous le voulez. Mais ce même jour, cette dame a contribué dans les autres fonds, dans la chanda arm et la jalsa salana. Le missionnaire de la Suisse écrit que il y a un membre de la jamaat qui lui a informé que lorsqu'il est venu en Suisse, il a fait une demande d'asile, mais on a rejeté sa demande. Et on avait annoncé la nouvelle année du plan Tahrik Jadid. Il n'avait que 1000 francs dans son compte, une somme qu'il avait réservée pour payer son avocat. Mais par la suite, il a contribué toute cette somme pour la cause de Dieu et a contribué dans le plan Tahrik Jadid. Et il sait très bien que c'est Dieu qui sera son meilleur avocat. Et Dieu lui a accordé ses faveurs. De l'invisible, Dieu lui a accordé son soutien et sa demande d'asile a été acceptée et il a eu la citoyenneté de ce pays sans passer par aucun avocat. Le missionnaire du Kyrgyzstan rapporte qu'il y a un ami kirghize, un certain Jumart, qui a embrassé l'Ahmadiyya en 2006. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, le missionnaire lui a dit en plaisantant qu'on paye les autres pour entrer dans les autres jamaat, mais quand on entre dans notre jamaat, nous demandons aux nouveaux venus de contribuer. Et le jeune a déclaré que tous les mois, il va contribuer 300 kirghizes. Il a augmenté cette somme en contribuant 400 et après, il a contribué 800 kirghizes par mois. Et sans rien dire, par la suite, il a commencé à contribuer 1000 kirghizes par mois. Il avait embrassé l'Ahmadiyya quelques jours avant de remplir son formulaire de Tahrik Jadid. Il voulait contribuer 100 kirghizes. On lui a dit qu'il peut contribuer moins que cela, mais il a insisté, mais par la suite, il a accepté de contribuer moins que cette somme. Le président de la Jamaat de l'Irlande a déclaré qu'un jeune couple a déclaré qu'ils vont dédier leurs enfants lorsqu'ils auront des enfants. La femme n'était pas tombée enceinte, mais après quelques jours, elle a contribué au nom de deux enfants qui n'étaient pas encore nés. Elle avait écrit le nom d'un fils et d'une fille. Après quelques jours, elle est tombée enceinte. Et on a su qu'ils allaient avoir des jumeaux. Ainsi, Dieu leur a accordé des jumeaux qui étaient en bonne santé. Et ils savent très bien que Dieu leur a accordé ces enfants parce qu'ils ont contribué pour la cause de Dieu. Le président d'une jamaat de Kambepur a écrit que Dieu m'a montré deux miracles lorsque j'ai contribué pour le plan Tahrik-e-Jadid. J'ai prié pour que je puisse payer cette somme. Un jour, une personne est venue dans mon magasin et a acheté des marchandises à un prix beaucoup plus élevé que je voulais le vendre. Et grâce à cela, j'ai pu compléter ma promesse. Ensuite, on m'a informé qu'il y a eu un incendie dans un des entrepôts où j'avais mes marchandises. J'ai prié et quand je suis parti là-bas, j'étais tout étonné de constater que les marchandises des autres ont été réduites en cendres. Mais par la grâce de Dieu, mes marchandises à moi n'ont pas été touchées par le feu. L'incendie était tel que le toit de l'entrepôt a fondu. Dans cette région, il y a un nombre de nos adversaires. Mais après cet incident, ils m'ont tous honoré. Tout cela était les faveurs de mes contributions. Lorsque j'évoque tout cela, je suis toujours reconnaissant envers Dieu. Un inspecteur du plan Tahrik-e-Jadid a déclaré que nous sommes partis voir les membres du Jamaat. Nous avons parlé à propos du plan Tahrik-e-Jadid concernant l'importance et ses bénédictions. Après la Jalsa, les hommes ont promis des sommes et les dames aussi étaient présentes. Le lendemain, alors que je partais ou je suis parti dans une autre ville, l'amir m'a informé qu'une dame de cette région a dit que vous avez pris les promesses des hommes, mais vous avez privé nous les femmes. Aujourd'hui, j'ai compris l'importance du plan Tahrik-e-Jadid et je veux contribuer davantage. Et cette dame n'avait embrassé l'Ahmadiyya que 6 ans auparavant. Monsieur Mohamed Shab de l'Inde écrit que nous sommes partis voir une jamaat et là-bas il y avait une dame qui a laissé son exemple concernant ses sacrifices. L'année dernière, elle était tombée malade et elle n'a pas pu contribuer dans le plan Tahrik-e-Jadid. Sa fille allait se marier. Lorsqu'on a fait mention du plan Tahrik-e-Jadid, cette dame a offert la somme qu'elle avait et elle a dit que n'informez pas mon mari car j'avais économisé cette somme pour le mariage de ma fille. La Jamaat doit aussi soutenir ces personnes qui sont en difficulté. Deux jeunes Ahmadis de Kambepur avaient un business. L'année dernière, chacun d'entre eux avait contribué 10 000 roupies. Et cette année-ci, ils ont promis de contribuer 100 000 roupies. Et ils priaient pour qu'Allah leur accorde la possibilité de contribuer cette somme. Mais leur business n'a pas marché. Ils avaient beaucoup de soucis à ce sujet. Mais Dieu leur a accordé sa miséricorde. Et ils ont fait un tel commerce, et en fin de compte, ils ont eu un profit de plus de 200 000 roupies, et ils ont pu compléter leur promesse. Une dame d'une des jamaats du Rajasthan s'occupait des brebis des autres. Lorsqu'on a évoqué le plan Tahrik-e-Jadid, elle a offert tout ce qu'elle avait. Comme je l'ai dit, voyez comment ces pauvres ont ce sens de sacrifice. Il y a une jeune Ahmadi qui avait embrassé l'Ahmadiyya depuis quelque temps. On l'a informée à propos du plan Tahrik-e-Jadid. Elle a dit à sa fille de donner 50 roupies. La fille a dit que j'ai 100 roupies et je vais contribuer cette somme. Et elle a insisté qu'elle va contribuer 100 roupies. En dépit du fait que sa mère lui interdisait cela. Par la grâce de Dieu en elle aussi, le niveau des sacrifices est en train d'augmenter. C'est vrai que le centre subventionne à l'Inde, mais la Jamaat de l'Inde essaie de se mettre sur ses pieds. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont fait ces sacrifices. Ceux qui ont les moyens et les amirs des Jamaat doivent soutenir leurs frères qui sont faibles et les petites Jamaat. Et ils doivent maintenir cet esprit du progrès de la Jamaat. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Afin que nous puissions présenter l'islam véritable au monde, nous allons devoir progresser ensemble. C'est là que nous pourrons transmettre le message de l'islam à tous. Qu'Allah fasse que la Umma du Saint-Prophète puisse reconnaître le Messie promis à l'islam, afin que l'on puisse répandre la fraternité dans le monde, afin que l'on puisse répandre l'amour, et afin que puisse réunir le monde entier sous la bannière du Saint-Prophète. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi.
أشهد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ